9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Les 24 heures du Mans fêtent leurs 100 ans. La plus célèbre course automobile du monde se déroulera le week-end prochain. Stéphane Bois et Guillaume Nadelec, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Vous êtes tous les deux journalistes sportifs à Ouest France et avec Bob Garcia, vous publiez 24 heures et malheurs du Mans aux éditions du Rocher, où vous évoquez en 24 chapitres les exploits et les drames qui ont jalonné un siècle d'une course d'endurance à nul autre pareil. Un mot pour commencer sur son créateur peut-être, Georges Durand, qu'on a totalement oublié aujourd'hui.
Alors Georges Durand, oui, qui a participé en fait à l'élaboration de cette course et qui en fait voulait un laboratoire technologique et en fait démontrer que pour les constructeurs, offrir un terrain en fait pour leur permettre de démontrer que leur voiture était fiable dans les années 20. On est en 1923, on est encore au début de l'automobile, les moteurs sont encore entre guillemets balbutiants en termes de technologie par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et donc l'idée, c'était de démontrer que on pouvait courir pendant 24 heures sans forcément avoir de gros problèmes, ce qui était un vrai argument commercial. Et en fait, par la performance, se sont développées des solutions technologiques. Et l'une des premières, par exemple, c'est le phare anti-brouillard qui, aujourd'hui, équipe toutes nos voitures. Et c'est dès 1926, sur une marque française qui a disparu, qui s'appelle Lorraine Dietrich.
La ligne droite des Hunaudière, c'était quoi à l'époque ?
À l'époque, c'était, il n'y avait pas l'asphalte. Hein. Il faut voir, si on parle du tout début des 24 heures, c'était un chemin de terre, en fait. C'est vraiment une vraie, vraie ligne droite que les concurrents prenaient à pleine vitesse.
Qu'est-ce qui a fait le succès de cette course à votre avis ?
C'est ce côté laboratoire technologique où finalement il y avait la notion de machine qui est très vite arrivée. Donc on disait essayer de développer les moteurs qui tenaient le plus, mais également cette notion d'équipage. Contrairement par exemple au Grand Prix, contrairement à la Formule 1, les pilotes se relaient au volant de ces voitures. Donc il y a des histoires extraordinaires. Et contrairement à la Formule 1, pour comparer, quand on tombe en panne, on peut toujours essayer de réparer, on peut essayer de repartir. Et aux 24 heures du Mans, les histoires sont vraiment nombreuses. De personnes qui ont réparé leur voiture sur le bord de la route, qui sont reparties. Et puis, il y a cette notion de dépassement de soi aussi qui est là. C'est-à-dire, il faut que les machines tiennent, mais il faut aussi que les hommes tiennent. On pourrait vous parler de la victoire de Carroll Shelby en 1959. On pourrait vous parler du duel en 1969 entre Jackie Hicks et Herman sur une Porsche, sur une Ford, qui jusque dans le dernier tour vont se battre, alors que ça fait 24 heures que les voitures tournent à un rythme très élevé. Donc, même encore récemment, en 2011, quand Peugeot et Audi terminent la course avec 11 secondes d'écart, eh bien, en fait, c'est ce suspense et c'est cette notion un peu de dépassement de soi qui a fait que aussi les 24 heures du Mans ont été très vite populaires.
Il y a eu pendant longtemps le fameux déparlement. Hein. Les pilotes alignés traversaient la piste en courant, sautaient dans leur voiture et démarraient en trombe. C'est Jackie Hicks, dont vous venez de parler, qui a gagné 6 fois les 24 heures, qui en a eu raison de ce départ très spectaculaire, mais très dangereux, hein, vous le racontez dans votre livre.
Oui, tout à fait. C'était la tradition. On appelait ça le départ en épi, le départ Le Mans. Voilà, on rejoignait sa voiture en courant, on partait pleine balle, avec parfois des portières qui se refermaient pas, on mettait pas de harnais de sécurité. Et c'est vrai que Jackie Hicks avait voulu dénoncer un peu cette tradition qui pour lui était dangereuse, qui présentait vraiment de gros défauts de sécurité. Et sur cette édition-là, ouais, en 69, il a voulu vraiment marquer le coup. Et donc, en fait, il a pas couru. Il a traversé gentiment la piste en marchant pendant que les autres concurrents voulaient partir mode traditionnel. Et lui, finalement, il est parti tranquillement. Et finalement, il finit par gagner la course. Et en fait, l'année suivante, ce qu'on appelait le départ Le Mans en épi a disparu. Et on est revenu à ce qu'on connaît aujourd'hui.
Si je peux rajouter, en fait, l'histoire, elle est assez rigolote de ce départ en épi. C'est qu'elle est aussi représentante d'une course qui va évoluer dans le temps avec ses normes de sécurité. En fait, quand ce départ en épi est lancé, où on traverse la piste, on est en 1925, et en fait, le règlement voulait que les voitures étaient décapotées. À l'époque, la plupart des voitures étaient décapotables, les voitures de sport, les voitures de luxe, comme ça, les voitures puissantes. Et en fait, il fallait recapoter la voiture, et pendant le premier relais, jusqu'à ce qu'on s'arrête pour refaire le plein, eh bien, on devait rouler pendant une heure capotée. Et après, on pouvait décapoter autant qu'on voulait, mais le règlement imposait ça. Ce qui faisait que les pilotes couraient, mais ne partez pas tout de suite, parce que il mettait des fois peut-être une minute pour bien capoter la voiture et ensuite qu'elle puisse partir. Et avec le temps, en fait, la notion de capotage a été en fait désuète, et c'est pour ça que les voitures partaient tout de suite finalement.
22 pilotes sont morts en disputant les 24 heures, surtout dans les années 50-60. Le pire, c'est en 1955. La Mercedes de Pierre Lévesque se désintègre et tue 84 personnes dans les tribunes.
Ouais, c'est l'événement le plus meurtrier qui a lieu sur le circuit. C'est vrai qu'il y a eu, on parlait tout à l'heure du départ en épi. Là, c'est vrai que l'année où Jackie Hicks s'élance en marchant, il y a un pilote, c'est Wolf là sur une
John
Porsche
Wolf,
qui perd la vie. John Wolf qui perd la vie justement à cause de cette tradition là de départ en épi. C'est vrai que c'est toujours c'est lié au sport automobile quoi. Ce danger est toujours là. Est toujours présent. Alors c'est vrai que cette année-là, 1955, a été très très meurtrière. Ça a même déclenché parfois des décisions d'État. Je pense à la Suisse, par exemple, qui a supprimé toutes les courses, les circuits sur son territoire, sur le territoire helvétique. Voilà, c'était vraiment, ça a marqué les esprits. Aussi, sans doute, on a avec des événements de ce type. Les conditions aussi de sécurité ont beaucoup changé. Quoi. C'est vrai qu'après, quand vous écoutiez des personnes qui assistaient aux 24 heures du Mans dans ces époques-là, les spectateurs pique-niquaient quasiment au ras des voitures. Quoi. En fait, il y avait des fascines juste pour délimiter la piste et les emplacements publics. Comme disait Guillaume tout à l'heure, il y a eu aussi cette évolution avec le temps de la sécurité. Bon, après, ça n'empêche pas aujourd'hui encore des décès, puisque il y a eu le décès d'Allan Simonsen, le Danois, là, en 2011, si je me souviens bien.
En 2013, oui.
Oui, voilà. Donc, 2013, où il est décédé. Donc, il y a toujours une part de risque, quelque part, qui existe dans le sport automobile. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins, c'est beaucoup plus safe, quelque part, de faire du sport automobile, mais il y a toujours ce danger qui est latent, comme une épée de Damoclès.
On fait une pause, Stéphane Bois et Guillaume Nadelec, on se retrouve tout de suite après, on continue cette épopée des 24 heures du Mans, dont c'est le centième anniversaire la semaine prochaine.
Europe 1, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï.
Heures, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
24 heures et malheur du Mans, ça vient de paraître aux éditions du Rocher à l'occasion du centième anniversaire des 24 heures du Mans. Stéphane Bois et Guillaume Nadelec, vous êtes tous les deux journalistes à Ouest France. Vous êtes deux des trois auteurs avec Bob Garcia de ce livre. La particularité des 24 heures du Mans, c'est que c'est une course où les femmes ont pu s'illustrer très tôt.
Oui, tout à fait, Frédéric. Dans les années 30, en fait, très vite, les 24 heures du Mans ont permis de mettre en avant le sport automobile féminin. On a notamment Odette Sicco qui, en 1935, fait quatrième sur une Bugatti. Dans les années 70 aussi, il y a eu un renouveau. Il y a eu une période un peu creuse après la guerre. Et dans les années 70, on a eu beaucoup de pilotes féminines. On pense notamment à Elela Lombardi, à Christine Bakers à l'époque sur Inalterra. Plus récemment, on a cette année, au départ des 24 heures du Mans, 5 femmes qui vont être au départ, et dont une qui a gagné la course précédente, les 24 heures du Mans, puisque c'est dans un championnat du monde, qui s'appelle Lilou Wadou, qui est une Française, et qui a gagné sa catégorie avec une Ferrari Spa-Francorchamps en Belgique, et qui arrive donc aux 24 heures du Mans comme favorite dans sa catégorie. Puis on a une jeune Française qui s'appelle Dorian Pain qui conduit en prototype et un équipage 100% féminin qui fait aussi partie des favoris dans la catégorie où elles sont engagées.
Ça a toujours aussi attiré les acteurs de cinéma. Hein. On le voit dans votre livre. Alors moi, je me souviens de Jean-Louis Trintignant qui a eu un accident à plus de 300 km/h au volant de sa Porsche 953. Il en est sorti miraculeusement indemne. Mais vous parlez beaucoup de Paul Newman qui a réussi à terminer deuxième sur une Porsche 935, et bien sûr de Steve McQueen, qui lui a couru les 12 heures de Sebring avec un pied dans le plâtre et fini deuxième, et qui en 1970 vient tourner Le Mans, un film dont il est le producteur et l'acteur principal. Malheureusement pour lui, les assurances lui interdisent de faire la course.
Oui, c'est tout à fait ça l'histoire. En fait, c'était une Porsche qui était, je ne sais plus, c'était une 928 tête, ouais, c'est ça. Et donc en fait après, oui, ils lui ont pas autorisé. Il était toujours, ils ont pas tenté le coup de le faire courir. Après, il avait des instructeurs aussi. Il lui-même pilotait. Mais c'est vrai que le cinéma a toujours été. Il y a toujours eu des histoires. On l'a vu encore récemment là. Tout à l'heure, on a vu passer Michael Fassbender, enfin l'acteur là. Il y avait eu aussi Patrick Dempsey, l'acteur américain. C'est vrai qu'il y a toujours eu une histoire assez proche entre le sport automobile, le cinéma. C'est toujours, il y a toujours eu des liens de, comment dire, des relations particulières. C'est vrai que avec Steve McQueen, il avait, ce film Le Mans vraiment avait caractérisé les choses. Mais on a vu aussi avec Sagamore Sevenin, il y avait eu
Michel Vaillant.
L'histoire avec la Vaillante. Ouais, Michel Vaillant, exactement. Donc, qui avait été tourné là. Qui avait tourné dans le cadre des 24 heures. Quoi. Là, la voiture était vraiment là, véritablement engagée aux 24 heures du Mans. C'est vrai qu'il y a toujours eu un lien très proche.
Le record de participation aux 24 heures revient à Henri Pescarolo, qui a pris 33 fois le départ et qui les a remportés 4 fois. c'est énorme. Et encore, je ne compte pas toutes les fois où il a participé aux 24 heures sans être pilote, hein, en tant que patron d'écurie.
Alors Henri, c'est un personnage vraiment représentatif des 24 heures du Mans. Déjà, c'est un peu le français un peu bougon, hein, quand vous le voyez. C'est quelqu'un qui râle un petit peu parce qu'il est pas souvent content de la situation. Mais c'est un peu d'exemple aussi, en fait. Henri Pescarolo, il arrive à une époque où le sport automobile français renaît via Jean-Luc Lagardère, via Matra, via Alpine, qui étaient des marques françaises sportives. Ça avait disparu en fait avec la guerre parce que, bien, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la reconstruction, la priorité n'est pas de faire de belles voitures. La priorité, c'est de faire des voitures qui vont servir aux gens pour aller travailler. Et donc, pendant quelques années, la France, en fait, s'est un peu retirée de ce milieu-là. France où il y avait auparavant des équipes comme Bugatti, comme Delahaye, L'âge qui étaient des marques de grand luxe et des marques de sport. Et donc, dans les années 60, il y a cette renaissance avec la marque Elf, avec Matra, avec Alpine. Et Henri Pescarolo est un enfant, en fait, de cette période. Et ce qu'il a fait surtout, et c'est bien ça qu'il faut se dire, c'est que en 1968, Le Mans est décalé à cause des événements du mois de mai. Il se retrouve en plein automne, donc la nuit est plus longue et surtout le temps est beaucoup plus mauvais. En juin, en Sarthe, il fait beau. À l'automne, ça peut être plus compliqué. Et en fait, l'essuie-glace de sa Matra tombe en panne. Donc Jean-Luc Lagardère vient le voir. Il dit, on va devoir abandonner parce que l'essuie-glace est en panne. Et Henri Pescarolo, ça ne lui plaît pas beaucoup d'abandonner pour cette raison. Et il décide de monter dans la voiture de nuit, sans essuie-glace, sous la pluie battante. Et il va, sans réfléchir, remonter pendant la course. Il va remonter jusqu'à la deuxième place. Et quand on lui parle de cet événement, on lui dit, mais qu'est-ce qui vous a pris de faire ça? Il dit, bah moi, qui me faisait surtout peur, c'était de me faire virer. Et donc la notion du risque, en fait, elle est toujours présente, par exemple, mais on voit qu'avec Henri Pescarolo, on est sur une autre planète. Et derrière, il va gagner avec Matra en 72 et 73-74. Il va également gagner en 84 avec Porsche. Et par la suite, en fait, il va avoir son écurie qui va lui donner aussi une aura un peu extraordinaire parce que il va s'opposer à Audi, qui était la grande marque allemande avec beaucoup de moyens. Et avec, je crois que c'était un budget de 2,5 millions, 3 millions d'euros tous les ans. Il allait battre Audi. En fait, il était potentiellement un concurrent qui pouvait gagner Le Mans. Il a tiré des pilotes comme Sébastien Loeb. Ils ont fait des podiums et ça a vraiment marqué les esprits.
Alors, la prochaine édition, celle du 100e anniversaire, 62 voitures sont engagées, 3 pilotes par voiture. Qu'est-ce que vous en attendez de celle-ci, de cette course-là ?
Là, on est dans une période vraiment où, alors, l'histoire des 24 heures du Mans, c'est des cycles, en fait. Il y a des cycles hauts, il y a des cycles bas, il y a des années où il y a, comme là, cette année où il y a les constructeurs reviennent en force, on le voit. Cadillac est présent, Ferrari revient, alors que ça faisait c'est depuis les années 70 où ils étaient plus présents. Là, on est dans une période, j'ai envie de dire faste, et encore l'avenir s'annonce radieux pour l'endurance, puisque l'année prochaine on verra trois autres marques arriver, Lamborghini, BMW et Alpine, qui vont s'engager en catégorie hypercar. On est vraiment dans une période faste et on le voit là, c'est le centenaire. Il y a un peu tout, il y a tous les ingrédients qui sont réunis pour une course, même là, de voir autant de 16 voitures sur le plateau hypercar, c'est quelque chose qu'on a connu les années précédentes où Toyota était plus que tout seul, quand Porsche et Audi s'étaient retirés, Peugeot aussi s'était retiré. Là, maintenant, Peugeot est revenu. Mais là, voilà, on est dans une, dans, on est dans dans un cycle haut et ça s'annonce passionnant.
Eh bien, je renvoie à la lecture de votre livre, Stéphane Bois et Guillaume Nadelec. Ça s'intitule 24 heures et malheur du Mans. C'est paru aux éditions du Rocher. Et nous aussi, on regardera la course et on pensera à vous.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et dans un instant, on retrouve Apollonia Poilan à l'occasion de la fête des mères.
Europe 1,
c'est arrivé demain.
Frédéric Tadéhi.